Voilà, c'est bon. Yofi, donc là, on est bon. Erev Tov les Koulam, on revient donc dans notre étude du Perek Relek après une longue interruption suite à notre changement de jour. On a étudié le jeudi et donc on s'est concentré plus sur la paracha. Et puis avant ça, il y a eu Hanouka, tout ça. Kitsour, on revient dans notre étude du Perek Relek de Maseret Sanhedrin. Et nous sommes Bedaf Tzadik Aleph, Amoud Bet. Nous avons terminé les discussions qu'il y avait entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, Marcus Aurelius Antoninus semble-t-il. Et maintenant, nous revenons parler de Triat HaMetim. Alors vous allez me dire, on a déjà parlé de Triat HaMetim. Effectivement, parmi les premiers cours qu'on a fait, c'était le sujet du début du Talmud. Mais ici, on va parler de Triat HaMetim d'un autre point de vue. C'est-à-dire pas seulement du fait de la résurrection des morts, mais de ce que ça peut m'apporter. La question qu'on avait évoquée au départ, c'était est-ce qu'il y a bichlal la résurrection des morts? Maintenant, on voudrait savoir, mais à quoi ça sert? Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc nous sommes Daf Tzadik Aleph Amoud Bet, pour ceux qui suivent dans le Talmud, et on commence avec Resh Lakish. Resh Lakish Rami. Alors Rami, ça veut dire qu'il va parler de deux versets ou alors de deux enseignements de la Mishnah qui semblent se contredire. Alors nous dit Resh Lakish. Ktiv, il y a écrit dans le livre de Jérémie, Bam iver upiseach arav veyoladet yachdav. Uktiv, az yedaleg keayal piseach vetaron. לשון אילם כי נקבעו במדבר מים ונחלים בערבה. הכיצד? עומדים במומם ומתרפאים. En fait, nous dit ici Resh Lakish, nous avons deux versets. Deux versets qui d'un côté nous dit que le hiver vepiseach, eh bien il va enfanter de quelqu'un qui lui ressemble, ou alors on nous dit qu'il va être complètement au top. Et donc la question qui est posée par Resh Lakish, c'est de dire comment est-ce possible si d'un côté on nous dit que lorsque Dieu fait Triat HaMetim, il y a la guérison complète de tout, ou alors est-ce qu'on est d'abord, on revient comme on est, et ensuite il y a la guérison. Si vous vous rappelez, ça ressemble à la question qu'avait posée Cléopâtre, à savoir est-ce que lorsqu'on revient, on revient avec nos vêtements, ou est-ce qu'on revient nu? Et là-bas, on avait expliqué que cela signifie, est-ce qu'il y a eu une valeur à la vie que j'ai menée ici-bas, ou alors, est-ce que la résurrection des morts, c'est revenir complètement une nouvelle personne? En fait, ici, la question, elle est posée de la même façon, mais d'un point de vue, pas seulement des midot, mais de ce que la vie m'a légué. Quand on avait parlé avec Cléopâtre, les levushim, les habits, au niveau de l'être, ce sont les midot. Mais là, on parle de ce que la vie a pu laisser sur moi. Il y a, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait un texte qui se baladait un petit peu sur Facebook d'un homme qui écrivait une lettre à sa femme disant qu'il ne voulait absolument pas qu'elle fasse de chirurgie esthétique pour ne pas que Chas v'Shalom, elle enlève toutes les aventures qu'ils ont passées ensemble. Il dit, les vergetures sur le ventre, pour moi, ce sont des accouchements extraordinaires. Les rides, ce sont les épreuves qu'on a passées ensemble. Les fossettes, ce sont les sourires qu'on a pu échanger ensemble. Si jamais tu vas maintenant faire de la chirurgie esthétique et que tu te fais un lifting dans tous les sens, machin, qu'est-ce qui restera de tout ce qu'on a vécu ensemble? Eh bien, ici, c'est là la question posée par Resh Lakish. Est-ce que l'homme, lorsqu'il revient, eh bien, il revient en ayant tout simplement gardé toutes les expériences de sa vie et il va en rajouter, ou alors, lorsqu'il revient, il revient d'Afrek. Et nous dit ici Resh Lakish qu'en fait, on revient avec tout ce qu'on a vécu et ensuite, on arrive à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que la question de savoir à quoi ça sert Triat HaMetim? Eh bien, ça sert à pouvoir grandir. Non pas seulement à pouvoir renaître, mais à pouvoir grandir. En fait, Triat HaMetim, c'est continuer à s'élever. Et on va voir que c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, l'élévation perpétuelle. Continuer à s'élever. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, nous dit Oula. Oula, lui, il dit, moi aussi, j'ai deux versets qui semblent contradictoires. Oula Rami, Ktiv, il y a marqué dans Yishayahu an-Navi, Bila amavet la netzach umacha Hashem Elohim dim'a me'al kol panim. Et d'un autre côté, il y a marqué Ktiv dans un autre verset encore dans Yishayahu, ki anar ben mea shana yamut, lo ye misham od ul yamim. Deux versets là aussi qui semblent se contredire. Le premier nous dit que la mort va disparaître complètement, bila amavet la netzach, donc il y aura plus du tout de mort, ou alors un autre verset qui nous dit lorsque quelqu'un mourra à 100 ans, on dira eh ben qu'est-ce qu'il est mort jeune celui-là. Donc dans ce deuxième verset, on nous parle que il y a un moment donné où il y a ce qu'on appelle arichut ayamim. Donc est-ce qu'il y a un moment donné où la mort n'existe plus, ou alors est-ce que on parle simplement de l'allongissement du fait qu'on vive beaucoup plus longtemps. Donc voilà la marloquette entre les deux versets pour Oula. Réponse du Talmud. L'Akashia, Kan be'Israël, ve'Kan be'Umot ha'Olam. C'est-à-dire que le verset qui parle de Bila Amavet la Netzach, que la mort sera complètement inexistante, c'est pour le peuple juif, et Arichut HaYamim, c'est pour Umot HaOlam. Et là, nous sommes obligés d'aller un petit peu plus loin dans cette explication. Est-ce qu'il est vrai que les Goyim n'auront pas le droit de prétendre à l'immortalité? Eh bien, avant de répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Oui, parce que nous savons bien, dans Rabbi Jacob, nous avons appris qu'un juif répond par une autre question à une question. La question est de savoir, est-ce que il faut passer directement d'une vie où il y a la mort à une vie sans la mort, ou est-ce qu'il faut s'habituer à ne plus mourir? Je m'explique. Arichut HaYamim, c'est le côté naturel de l'immortalité. Arichut HaYamim, c'est quoi? C'est le fait que, on est rajouté des années de vie à l'être humain. Aujourd'hui, Baruch HaShem, la longévité de la vie est beaucoup plus importante qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans, ainsi de suite. Donc, il semblerait qu'on aille vers cette longévité de la vie de manière naturelle. À tel point qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, en plein dans les questions sur le transhumanisme. C'est-à-dire, est-ce que il y a un idéal à faire en sorte que notre conscience ne soit plus dans un corps physique, mais devienne l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Vous comprenez que ça, c'est une tentative de l'humanité d'arriver à Bila Amavet la Netzach. C'est-à-dire qu'il y a une recherche perpétuelle de l'homme de savoir s'il pourra atteindre l'immortalité. Alors il y a là-dessus évidemment une recherche de ce que nous a déjà dit le Nahash, Besefer Bereshit, lorsqu'il a dit à Chava que pourquoi Dieu nous a interdit de manger, parce que Veitem ke Elohim, qu'on ressemblerait donc à Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette recherche de la divinisation de l'être en recherchant perpétuellement à être immortel? Eh bien, la réponse du Talmud nous dit quoi? Nous dit que ça marche par palier, ça marche par étape. Les choses ne doivent pas arriver pouf comme ça. Quand on se pose la question, quoi, les Bnei Israël, ils arriveront à un stade où ils ne mourront plus, et les Goïms, eux, ils ne seront que avec beaucoup d'années de vie? nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Adir Bamarom, que les goyim aussi vont atteindre Bila Amavet la Netzach. C'est une question d'élévation, une question d'évolution de l'être et donc d'élévation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une, pour l'instant du moins, il y a, on va voir si ce pour l'instant il reste ou il s'arrête, mais il y a une différence entre Israël et Umot HaOlam. Il y a une différence entre le peuple juif et le reste du monde. Cette différence, elle est built-in. Elle est dans l'essence même de la création d'Israël. Cette différence permet et à l'un et à l'autre d'évoluer, d'avancer. D'ailleurs, cette différence entre Am Israël et Umot HaOlam n'est pas que à ce niveau-là, n'est pas que au niveau de Bila Amavet Lanetzach ou Arichut Hayamim. Elle a, elle est présente dans énormément de situations. À tel point que le Talmud ici, lorsque nous donne le terout de Oula en disant les goyim, eux, ils vivront longtemps, mais Am Israël vivra éternellement, la Gemara nous dit Venochim, Mabawatam. Les goyim, qu'est-ce que tu me racontes maintenant que ça parle des goyim? Les versets ne parlent pas du tout des goyim. Les versets nous parlent du peuple d'Israël. Donc pourquoi est-ce que tu m'as mis maintenant les goyim? Ça n'a rien à voir. Eh bien, en fait, nous dit réponse du Talmud, Incha dirtiv ba'u, à propos d'eux, il est marqué, Ve'amdu zarim ve'ra'u tzonnachem ou ve'nenechar ikarechem ve'kormechem. C'est-à-dire, Am Israël et les goyim vivent et doivent vivre en osmose les uns avec les autres. Et il doit y avoir un échange entre le peuple d'Israël et les goyim. N'oubliez pas que l'objectif du peuple juif est de devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ainsi, eh bien, le Kohen, de la même façon qu'il est, il a un statut particulier par rapport au Israël, et il est là pour lui montrer un chemin pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, il en va de même pour Am Israël par rapport au Goïm. Et donc, au moment où Am Israël va atteindre ce qu'on appelle Arichut Hayamim, la longévité de la vie, les Goïm n'y seront pas encore. Entre parenthèses, aujourd'hui, l'État d'Israël est l'un des pays où il y a la plus grande longévité de vie au monde. J'ai pas dit le pays, mais un des pays. On se rapproche de cette dimension de Arichut Hayamim. Il semblerait donc que lorsque le peuple d'Israël arrivera à l'étape Bila Amavet Lanetzar, alors les goyim qui auront appris d'Israël pourront eux aussi arriver à Arichut Hayamim jusqu'à ce que eux aussi arrivent à Bila Amavet Lanetzar. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrivera du peuple d'Israël? Eh bien, vous comprenez que cette alia de Madrega doit être permanente. Cela veut dire que lorsque le monde atteint le niveau d'Israël, de Kohanim, eh bien les Bnei Israël, qui sont les Kohané Hachem, deviennent Kohen Gadol, et le Kohen Gadol devient Superman. C'est-à-dire qu'il y a une évolution perpétuelle qui est proposée ici dans le Talmud. Lorsque Dieu va te ramener, il va te ramener avec la même configuration de ton corps d'au moment où tu es parti, mais après tu vas t'élever encore. C'est cette dimension-là qui est mise en avant. La dimension de l'évolution, de l'élévation perpétuelle. D'ailleurs, nous dira le Talmud, pourquoi est-ce que c'est important que Dieu ne ramène pas les personnes complètement guéries? Parce qu'on pourrait penser que c'est plus la même personne. C'est ce qu'on avait vu avec Cléopâtre. Parce que tu aurais pu penser qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a fait une grosse croix sur la personne que tu as été et tu redeviens une autre personne. Non, tu reviens la même personne, mais tu t'élèves, tu grandis encore. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut voir d'où provient le concept même de l'évolution et de l'élévation dans le judaïsme. Rav Chisda Rami. Rav Chisda lui aussi amène deux versets qui semblent contradictoires. Ktiv, il y a marqué dans le livre de Yeshayahu. Vechafera alevana u bosha achama, ki malach Hashem tsevaot. Donc, il y a un verset qui nous dit que la lune et le soleil vont être en mode boucha, en mode cherpa, honte, face à la royauté divine. Mais d'un autre côté, on nous dit, Uktiv, également dans Yeshayahu, Ve'aya or alevana ke or achama, ve'or achama yeshivataim ke or shivatayamin. Que viendra un temps où la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et celle du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière des sept jours de la création. Alors comment est-ce qu'on s'arrange avec ces deux versets contradictoires ? Dit le Talmud, la kashia, kan le yemot ha-mashiach, ve kan le olam haba. Là aussi, il y a une évolution, mais on parle de l'origine. À partir de quand a-t-on découvert dans le judaïsme qu'il y a des madrégotes, qu'il y a des séparations, des différenciations entre les créatures? Eh bien, la première fois que ça apparaît, c'est le quatrième jour de la création. Le quatrième jour de la création, on nous dit « Vayas Elohim et shnei ha-meorot ha-gedolim et ha-maor ha-gadol le mem shelet ha-yom ve'et ha-maor ha-katan le mem shelet ha-laila ve'et ha-kochavim. » On nous a dit que Dieu a créé les deux grands luminaires et après on nous dit il y avait le grand et le petit. Qu'est-ce que c'est le grand et le petit? Je crois qu'ils étaient tous les deux grands. Oui, ils sont tous les deux grands, évidemment. Mais il y a quand même une hiérarchie entre les créatures. Et à partir de ce moment-là, le Midrash nous raconte comment la lune s'en est venue à être plus petite. Elle a dit, elle a été voir Dieu, elle a dit, comment est-ce possible un roi avec deux couronnes? Et Dieu lui a dit, tu as raison, allez, rapetisse-toi. Maintenant, le Midrash nous raconte comment Akadosh Baruch Hu a essayé de réconforter la lune et rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Dans le traité de Choulin, on nous raconte cette histoire. Amra yareach lifnei Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam efshar shnei melachim shehishtamshu beketer echad. Amar la lechi umaati et atzmer. C'est ce qu'on a dit. Amra lefanav ribono shel olam. Oil v'amarti lefanecha davar agun. Amit et atzmi. J'ai dit quelque chose de vrai. Alors pourquoi je me fais punir? Chayze de lo kai maiteve. De atam akadosh baruch hu eviu kapara alai shemi'atati et hayareach. Lorsque Dieu a vu que la lune n'arrivait pas à être réconfortée par les paroles de Dieu, Dieu a dit à lui-même, je sais pas à qui, amenez-moi un korban que je puisse faire kapara sur le fait que j'ai rapetissé la lune. En d'autres termes, dès cette histoire de la lune et du soleil, il y a une hiérarchie dans le monde. Cette hiérarchie, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de savoir où je suis et de savoir qu'il y a plus bas, mais qu'il y a également plus haut. Et c'est ce qui me permet, eh bien, d'avancer. Mais évidemment que les dimensions de soleil et de lune ne sont pas anodins. Car lorsqu'on parle du soleil et de la lune, on ne fait évidemment pas référence aux astres spatiaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du soleil en tant que soleil et de lune en tant que lune. On parle de ce qu'il représente. Le soleil, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que c'est le soleil du point de vue du judaïsme? Eh bien, c'est la shlemut. C'est la force active et c'est également la perfection. Le soleil est toujours rond. Nous dira le Talmud dans Baba Batra, « Pene Moshe ke pene Chama ». Le visage de Moshe était comme le visage du soleil. Shalem. D'un autre côté, la lune, on sait que astronomiquement, elle est ronde. Mais du point de vue de l'homme et du peuple juif, elle va en devenant ronde. Elle est le symbole du perfectionnement. Et on nous dit la Gemara, Pnei Yehoshua que Pnei Levana. Et Yehoshua, lui, ressemblait à la lune. Il y a donc ici deux dimensions. D'un point de vue, la dimension de la perfection, et de l'autre, du perfectionnement. Nous dit le Rav Kook, dans Orot HaKodesh Chelek Bet, à la page, je ne me rappelle plus, mais c'est dans la partie qui s'appelle Shnei Erchei Hashlemut, les deux valeurs de la perfection, nous dit le Rav Kook, il y a deux dimensions qui sont complémentaires l'une l'autre, mais tout autant nécessaires l'une que l'autre. Et elles s'appellent d'un côté la Shlemut, et de l'autre, la ishtalmut. La perfection et le perfectionnement. Nous dire que la lune va atteindre la dimension du soleil, eh bien, c'est de dire qu'on va atteindre la perfection. Mais de dire juste après que le soleil va lui aussi augmenter d'énergie, c'est de dire que cette perfection n'est jamais, en fait, véritablement atteinte, puisqu'elle se doit toujours de continuer. Elle se doit toujours d'évoluer. Et c'est de cela dont on parle dans cette deuxième partie de Triat HaMetim au niveau du Perek Chelek. Que maintenant, tu dois comprendre que la résurrection des morts n'est pas une fin en soi, mais doit être un tremplin pour continuer à grandir et à nous élever dans notre relation à Dieu. Et c'est pour ça qu'on nous a dit, le premier verset fait référence au Yemot HaMashiach, le deuxième verset, hein, au Olam Haba. Et je vous rappelle que Olam Haba, eh bien, c'est une dimension qui nous échappe complètement puisqu'on ne l'a pas encore vécu. Et d'ailleurs, personne ne l'a vraiment vécu. Nous dira le Talmud que toutes les prophéties des prophètes ont prophétisé pour Yemot HaMashiach. Aval Olam Haba, Ain Loraata Elohim Zulatecha. C'est-à-dire que le Olam Haba, on ne sait pas encore de quoi il va être véritablement formé. Par contre, on sait ce que c'est. Ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Mazé Yemot HaMashiach. Eh bien, nous dit ici Shmuel, le Amora Shmuel, parce que lui, ça lui dérange qu'on te dise que l'histoire de la lune et du ciel, ça fait, de la lune et du soleil, ça fait référence au Yemot HaMashiach. Ou le Shmuel de Amar, parce que Shmuel a dit, En ben haolam hazé, le Yemot HaMashiach, Ella shiavud malchuyot bilvad. C'est-à-dire, le Yemot HaMashiach, ça n'est pas le dévoilement de choses surnaturelles, comme la lumière de la lune qui arrive à la lumière du soleil. Puisque Yemot HaMashiach, c'est quoi? Ce n'est que l'indépendance nationale. Et ça, c'est très important, puisque c'est l'une des sources fondamentales qui va permettre de décréter au niveau de la halakha que nous sommes en Yemot HaMashiach. C'est que Shmuel nous a dit, la seule différence entre l'exil, Olam Hazeh c'est l'exil, et Yemot HaMashiach, et donc la Geoula, c'est Shiabud Malchuyot Bilvad. C'est-à-dire, lorsqu'on est soumis aux nations, ça s'appelle Galout, que ce soit en Israël ou en Chutz La'aretz, et lorsqu'on est indépendant, ça s'appelle Yemot HaMashiach, Geoula. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est sorti d'Égypte, ça s'appelle Geoula, bien qu'on ne soit pas en Eretz Israël parce qu'on était indépendant. Lorsque on s'est libéré de l'emprise des Grecs à Hanouka, ça s'appelle Geoula. Et lorsqu'on a créé l'État d'Israël, ça s'appelle Yemot HaMashiach. Parce qu'on a retrouvé notre indépendance. Ce n'est pas encore Olam Haba, mais c'est Yemot HaMashiach. Et donc, comment est-ce que Shmuel, lui, va expliquer cette dimension de lumière de la lune qui grandit et lumière du soleil encore plus? Eh bien, il s'agit de perception. Alors, quelle est la différence entre la lumière du soleil et la lumière de la lune? C'est ce qu'on appelle aspaklaria meira ou aspaklaria sheinena meira. C'est-à-dire, est-ce que tu reçois ta lumière directement du soleil ou est-ce que la lune reflète la lumière du soleil? Ou alors, est-ce que ta relation à Dieu, elle est directe ou est-ce qu'elle passe par des intermédiaires, en l'occurrence Moshe Rabbeinu? Donc, Beyemot HaMashiach, on se rapproche d'une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Entre parenthèses, c'est la réponse que m'avait donnée à l'époque le Rav Uri Cherki, lorsque je lui avais demandé, je me souviens très bien, après l'enterrement du Rav Mordechai Eliyahu et du Rav Avraham Shapira, j'avais été très très perturbé de leur mort, et j'étais à la yeshiva à Merkaz Arav, donc j'étais très... Enfin, ça m'avait beaucoup secoué, la mort de Reb Avrum. Et j'avais demandé au Rav Cherki, mais j'ai l'impression que tous les géants, ils s'en vont. Et qu'il n'y a pas de géants derrière qui prennent la relève. Bon, alors d'abord, il m'a dit que c'est toujours difficile quand on n'a pas encore le recul de parler de géants face à d'autres qui n'en seraient pas. Peut-être que d'ici 40 ans, 50 ans, on dira que nos rabbins actuellement, c'est des géants. Certainement d'ailleurs. Mais il m'a dit, cela fait référence à justement le fait qu'on a besoin de moins d'intermédiaires entre nous et Dieu. Il m'a expliqué comme ça, que il m'a dit, tu dois imaginer le dévoilement divin comme étant, allez, une espèce de grosse bouteille avec un nombre de litres de dévoilement qu'il doit y avoir à chaque instant. Lorsque le peuple est très bas, il a que un litre à lui, alors les 9 autres litres doivent être réalisés, récupérés par 1, 2, 3 bonhommes. Et donc, pendant des générations où Amisraël il était très bas, on avait des rabbins très 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 hauts pour avoir au final les 10 litres. Mais lorsque le peuple juif il a un niveau de 5 litres, ben, il n'a plus besoin d'avoir des rabbins de 9 litres. Les rabbins sont à 5. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont plus grands que les gens. Et le Rav Cherki m'a dit, c'est la preuve de la grandeur du peuple juif. C'est la preuve de Yemot HaMashiach. Que la lumière de la lune devient la lumière du soleil. Qu'on a moins besoin d'intermédiaires pour être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Ça a l'air ? Là-dessus, le Talmud termine en disant « La kashia kan be machane tzadikim, kan be machane shrina ». En fait, c'est pas machane tzadikim, c'est machane Israël. C'est-à-dire, de la même façon que dans le Beth Amikdash, il y a une hiérarchie et que tu peux pas aller n'importe où en fonction de si tu es impur, que tu es pur, que tu es pas Cohen, et ainsi de suite, eh bien, il y a une hiérarchie dans le monde entier. Et cette hiérarchie, elle est fondamentale pour savoir quel est l'idéal de la Shlemut. Et quel est le chemin de la Ishtalmut pour y arriver? Alors, puisqu'on parle de Ishtalmut, eh bien, on va se poser la question, qui est légitime pour revenir Betriat Hametim? Alors, ça, on ne repose pas la question du départ. Au départ, on nous avait dit qu'en Israël, les Shalem, Khalek, Olam Abba. Donc, on ne reparle pas de cela. Mais on va reparler d'essayer de comprendre quel style de personne. Puisque la Triat Hametim est là pour nous permettre à nous élever, quel style de personne ça vaut le coup qu'ils reviennent? Rava lui maintenant c'est à lui de parler, et lui aussi il a 2 versets à mettre en porte-à-faux. Ani Amid Vachaye, c'est marqué d'un côté dans le livre de Devarim, et deuxièmement il y a marqué Machatzti Vani Erpa. C'est-à-dire, d'un côté, il y a marqué « Je vais faire mourir et je vais ressusciter. » Et d'un autre côté, il y a marqué « Je vais affaiblir et je vais guérir. » Soit tu me dis « Triat Hametim », soit tu me dis « Guérison. » Nous, ma, eh bien, répond le Talmud « Ani amit ve'achaye de mashma k'sham k'sham sera k'shani amit et ha'adam k'achani mechayehu ou k'shemet ba'almum עומד חי בעלמום, וכתיב מחצתי ואני ארפה, וכשהוא מחיה מרפאת מחץ ועומד שלם. Donc nous dit ici le Talmud, c'est ce qu'on a dit, je vais d'abord le ramener comme il était, c'est-à-dire s'il était mort avec tout ce qu'il a récupéré de sa vie, eh bien je le ramène avec ce niveau-là, et de là, je le fais grandir encore plus. Mais ça, donc Rabba, c'est comme Resh Lakim, Resh Lakish qu'on a dit au début de notre étude. Tanou Rabbanan. Là-dessus, Chachamim vont continuer à en rajouter une couche. Ani amid vachaye, yachol shetehe mita be'echad vechayim be'echad keder shaolam noeg. Mazé amid vachaye. Peut-être que le terme le'achayot n'est pas là pour nous dire je vais le ressusciter, mais tout simplement peut-être lui permettre de continuer à vivre. Tu sais, comme on dit en Ashkenaz, lorsque tu donnes un bon verre de whisky à quelqu'un, tu lui dis ah, c'est un mechaye. Ça me fait revivre. C'est pas qu'il était mort, c'est qu'en fait tu lui as permis de continuer sa vie. Donc peut-être que c'est de cela dont on parle. Peut-être qu'on ne parle pas de résurrection des morts. Talmud Lomar, machatzti ve'anirpa. Mai mechitza ve'refua be'echad, af mita ve'chaim be'echad. On dit non, t'inquiète pas, on parle vraiment de résurrection des morts. De la même façon que celui qui est blessé, c'est de celui-là dont on parle quand on nous dit on va le guérir. Eh ben, quand on te dit il est mort, c'est de celui-là qu'on parle quand on te dit il va revivre. Ok? Besed. Donc ça, on a réglé le problème. Maintenant qu'on a expliqué à quoi ça servait Triat HaMetim, ça sert donc à s'élever, arrive Rabbi Meir. Et Rabbi Meir va essayer de nous amener pour nous expliquer, comme on a dit, qui ça vaut le coup de ramener. Rabbi Meir l'omède la chose suivante. Tanya, Amar Rabbi Meir, minayin le Triat HaMetim min haTorah. Tiens, mais c'est une question qu'on connaît bien. D'où on voit qu'il y a marqué Triat HaMetim dans la Torah. Bah, on l'avait déjà posé cette question. Oui, mais tu vas voir que Rabbi Meir, il donne cette fois d'autres indications, d'autres versets qui viennent nous apprendre d'autres choses. On vient nous expliquer quel style de personne mérite de revenir. Alors nous dit-il, Minayin le Triat HaMetim min haTorah, Sheneemar, Az Yashir Moshe, Uvenei Israel, Et Ashira Azot Hashem. Char lo ne'emar ela yashir mikan triat hametim min haTorah. Donc comme il y a marqué az yashir et Moshe chantera au futur, ça veut dire qu'il reviendra. Pour l'instant, je vais pas expliquer, je vais lire les différents versets qui sont amenés et on verra quelle est la différence entre chacun. Kayotze badavar ata omer az yivne Yoshua מזבח להשם. בנה לא נאמר, אלא יבנה. מכאן לתחיית המתים מן התורה. Deuxième verset qui est amené, c'est que Yehoshua, il va construire un hôtel pour Dieu. On ne nous a pas dit il l'a construit, on dit il va le construire. Donc, תחיית המתים. Mais ça ne s'arrête pas là. On nous dit également, ah bon? Si quelqu'un, on te dit avec le yud du futur, ça veut forcément dire Triat HaMetim. Ela me'ata zivne Shlomo, bama likmo shikutz Moav, achinam et de yivne. Non, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est pas à chaque fois qu'il y a marqué au futur que ça veut dire qu'il va Triat HaMetim. Puisque par exemple pour Shlomo, ela me'ale alav akatuv keilu bana. Shlomo, on sait bien que c'est pas lui qui a créé les temples d'idolâtrie. C'est juste qu'il s'est laissé amener par ses femmes à faire les temples d'idolâtrie. Mais revenons à nos moutons. Les versets qui nous disent qu'il y a Triat HaMetim. Donc on a dit premièrement Az Yashir Moshe. Deuxièmement, Az Yivne Yehoshua. Troisièmement, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Minayin le Triat HaMetim min haTorah, Sheneemar, Ashrei Yoshve Vetecha. Ashrei Yoshve Vetecha? Od Yalelu Chasela. Mazé? Lama lo? Od Hillelucha, Ela, Yehallelucha. Donc là aussi, futur, boum bam, Triat HaMetim. Alors, Beseder, nous avons donc trois versets qui nous ont été amenés pour nous dire que ça, c'est les versets qui nous disent que ça vaut le coup de revenir. Il y a ici une grande question qui se pose. Quelle est la grande question qui va se poser à ce moment-là? Qu'est-ce que représente ces différentes dimensions? Celui qui dit Ashrei Yoshve Vetecha, Odialelu Chatzela. Quelle est la personne qui l'intéresse? La personne qui l'intéresse, c'est celui qui est Yoshev Babait, c'est-à-dire ma personne. Les gens, donc, qui donnent une importance fondamentale à leur personne, parce qu'ils sont conscients que si Dieu les a créés, c'est qu'ils ont un rôle à remplir, alors ça vaut le coup qu'ils reviennent. Le deuxième verset nous a parlé de Azivne Yehoshua. C'est quoi Azivne Yehoshua? Yehoshua, il a fait quoi dans sa vie? Il nous a fait rentrer en Eretz Israël. C'est lui qui nous a fait conquérir la terre d'Israël. En d'autres termes, Azivne Yehoshua fait référence aux gens pour qui le destin collectif du peuple juif est fondamental. Et donc, en tant que représentant de ce collectif, ça vaut le coup qu'il revienne. Le premier verset qu'on a cité, Az Yashir Moshe Uvene Israël, eh bien, c'est complètement différent. Parce que le verset de Az Yashir Moshe de la Shirat Hayam, eh bien, ne va pas avoir une influence que sur le peuple juif. Il n'y a qu'à regarder les paroles de la Shirat Hayam. On voit que le monde entier, toutes les nations sont impactées par la Shira. L'ouverture de la mer Rouge a eu une influence sur le monde entier. Donc ce sont les gens pour qui la destinée du monde, de l'humanité tout entière, est importante. Il y a une quatrième dimension. Il y a une quatrième dimension de personnages où ça vaut le coup qu'on revienne. Et ça, on l'avait vu dans le premier version de Triat Hametim. L'un des premiers versets qui avait été amené, c'était Vincha shochev imavotecha vekam. Ça parlait de Moshe. Il semblerait que Moshe aussi, un mec comme lui, ça vaut le coup. Vous savez quelle chanson il a dit, Moshe? Moshe, il a dit la chanson de Ahazinu. Et dans la chanson de Ahazinu Hashamaim Vaharetz, qu'est-ce qu'il y a à marquer là-bas? Eh bien, dans la chanson de Az Yashir Moshe, de Ahazinu, eh bien, il y a ici une volonté de s'attacher également, regardez la chanson de Ahazinu, de s'attacher au cosmos. Ahazinu Hashamayim Vadabera. Veishma Aretz Imrefi. Moshe parle au ciel, à la terre, à toute la création. Vous aurez donc compris qu'il y a quatre dimensions de personnages pour lesquels ça vaut le coup de revenir. Parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Ces quatre personnages, ils représentent ce que le Rav Kook appelle dans Rot HaKodesh les quatre chansons. C'est un texte que nous connaissons bien, qui s'appelle Shir Meruba, les quatre chansons. Nous dit le Rav Kook la chose suivante. Yesh Sheushar et Shirat Nafsho. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vivent au rythme de leur individu. Ou Ben Nafsho ou Motse et Tatsmo. Et c'est dans son être qu'il se retrouve. Vou Motse et Takol. Et Melo Asipuk Aruchani Bimlo. Il est complètement entier dans sa relation à Dieu lorsqu'il s'occupe de lui-même. Mais il y a des hommes qui vont aller au-delà. Yesh et Ushar et Shirata Uma. Lui, il vibre au rythme du Am Israël. Il s'élève au-delà de sa personne. Ce qui l'intéresse, c'est Am Israël. Il va aller à Chomesh. Parce que lui, c'est Am Israël qui l'intéresse. Alors que l'autre, le premier, il va aller à son cours de yoga. Après, il y a une troisième personne. Veyesh asher shar et shirata adam. Il vibre au rythme de l'humanité. Il va aller dans des manifestations pour la libération de tous les prisonniers dans le monde. Il se sent extrêmement touché par le drame de ces minorités musulmanes réprimées en Russie, il est complètement, voilà, il vibre au rythme de l'humain. Et il y a un quatrième, Sheushar et Shirata Olam. Comme disait l'élève du Gaon de Vilna, moi je ne me sens pas libre tant qu'il y a une pierre qui empêche le déplacement d'un ver de terre. Je suis complètement en osmose avec le monde. Nous dit le Rav Kook, c'est bien beau d'avoir ces quatre styles de personnages, mais s'ils sont détachés des autres, eh bien, ils vont faire en sorte que leurs propres idéaux deviennent des idéaux uniques et vont devenir intolérants envers les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a les conflits qu'on connaît très bien dans notre génération. On a des gens aujourd'hui dans l'État d'Israël qui sont à fond à Israël, mais leur personne ne les intéresse pas. On a des gens qui sont à fond dans le tipoua ratzmi, dans le fait d'être au top du dernier mocassin avec le, on est inscrit à la salle de sport pendant 16 heures par semaine, mais la destinée collective d'Am Israël, c'est pas tellement important pour eux. Il y a des gens qui sont des militants des droits de l'homme, et il y a des gens qui prennent certaines substances, mais qui voient l'avenir des vaches comme étant plus importante que celle des hommes. Nous dit le Rav Kook, le problème, c'est quand ils sont donc séparés. Il faut donc amener une cinquième identité. Et ainsi, nous dit le Rav Kook, « Veyesh asher ole im kol ashirim alalu beyachad beaguda achat. Vekulam notnim et koloteem, kulam yachad manimim et zimrehem. » Donc, tout le monde ensemble, et à ce moment-là, והתמימות הזאת במלואה עולה היא להיות שירת קודש. שירת אל, שירת ישראל, שיר אל, שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו. Ainsi, vous avez celui qui chante à Azinu, il est pour le cosmos. Celui qui chante à Yashir Moshe, il est pour l'humanité. Celui qui chante à Zivne Yoshua, il est pour le nation. Et celui qui chante à Shevetecha, il est pour l'individu. Nous dit donc le Talmud, il y a la place pour ces quatre dimensions, à condition qu'elles ont conscience chacune qu'elles ont besoin des autres pour pouvoir s'élever. Ainsi, nous dit le Talmud, Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Minayin letriat hametim min haTorah. Réponse, Shenehemar, Kol tzofaych nasu kol yachdav yeranenu. Le Talmud termine en disant qu'en fait, celui qui est ressuscité, qui mérite, c'est celui qui prend toutes les voix des prophètes, donc des quatre que nous avons évoqués tout à l'heure, Veyachdav Yeranenu, qui les réunit ensemble. Yeranenu, Nehemar, Veloranenu, Velachen Mikan Triat Ametim Minatoah, Veamar Rabbi Chiya Bar Abba, Veamar Rabbi Yochanan, Atidin Kol Hanevi'im, Kulam, Omrim Shira Bekol Echad, Shenehemar, Kol Tzofaych Nasu Kol Yachdav Yeranenu. Viendra un temps où tous les prophètes chanteront d'une seule même voix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer leurs paroles, mais c'est que on entendra dans l'union de toutes ces paroles, eh bien, quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus harmonieux. C'est exactement ce qui se passe lorsque le Menatsear fait bien son boulot. Le chef d'orchestre, son rôle, c'est de faire en sorte qu'a priori, une cacophonie de plein d'instruments différents deviennent une symphonie. Lorsque vous avez les instruments à cordes qui jouent, si tu les prends détachés complètement des instruments avant et des percussions, t'as l'impression que c'est n'importe quoi. Il suffit que l'un ne joue pas en osmose avec l'autre, c'est une véritable cacophonie. Arrive le Menatsear et dit voilà, Maintenant, je vais vous apprendre à chanter ensemble. On a besoin des percussions, on a besoin de l'instrument avant, on a besoin des cordes. Et ensemble, eh bien, on va créer la symphonie. Eh bien, c'est de cela dont parle le Talmud lorsqu'il nous dit « Minnaim triat hametim min haTorah ». À quoi sert la résurrection des morts de ce qu'on a pu voir aujourd'hui? C'est de permettre à dévoiler une élévation perpétuelle. Pour ce faire, eh bien, il faut avoir conscience que ce que je suis et ce que j'ai été va me permettre de grandir. Mais ça doit me faire prendre conscience aussi que ce que toi, tu as été, ça doit aussi me permettre de grandir. C'est cette élévation perpétuelle qui est la raison d'être, si je puis dire, de Triat HaMetim. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, la suite, dans de prochains épisodes, la semaine prochaine. Alors à bientôt les amis.
Merci beaucoup.
Voilà Kvod Arav, alors j'espère que vous avez vu, on n'a pas tout fait, on n'a même pas fait trois quarts de DAF, donc il nous reste encore beaucoup de choses à voir.
Oui, non, ce qui m'intéressait, c'était de vous entendre, parce que pour moi, c'est malheureusement, je suis encore dans la galoute. Et bien sûr, j'ai accès aux explications du Rav Kook sur ces problèmes-là. Mais j'ai été habitué, d'abord, de commencer par le Maharal de Prague. Et il y a là quelque chose à aller vérifier et aller voir. Le Maharal de Prague avait déjà annoncé à sa manière ce que vous êtes en train de dire aussi superbement que ce
tout soit. Tout à fait. On peut retrouver ça exactement. Et dans Netzach Israël, il y a énormément de cette dimension-là qui est annoncée, et surtout, peut-être encore plus, si je ne m'abuse, dans Derech Chaim, où là-bas le Maharal parle de cette dimension d'élévation. C'est tout à fait vrai. Le problème du Maharal, si je puis dire, hein, le problème du Maharal entre grosses guillemets, c'est que le langage du Maharal est compliqué aujourd'hui. À transmettre dans le texte. Et j'ai peur, mais peut-être que c'est moi qui ai tort, j'ai peur que si je me lance dans l'enseignement du Maharal, le langage du Rav risque de me faire perdre l'auditoire. Mais
il faut vous lancer.
Bon, très bien.
Le Maharal de Prague, comme vous le savez, il est à la base de tout ce qui a été dit.
Bien sûr, bien sûr.
Et en particulier de l'enseignement du sionisme religieux.
Vous avez tout à fait raison. Bien sûr.
Et puis, il ne faut pas aller le voir, à mon humble avis.
Vous avez raison.
Il faut aller le voir dans ces grands ouvrages. Il faut aller d'abord le voir dans les explications qu'il donne au passage de la Gemara.
Oui, oui. Tout à fait.
Chaque passage d'Agmara est bien entendu pour faire équilibre avec tout cela. Nous passons aussi par d'autres moyens, mais j'étais véritablement ravi de vous entendre.
Eh bien, c'est un honneur.
Merci beaucoup. Oui, hein. on est